Même si nous ne sommes pas dans nos milieux en but à toutes les attaques dont elle est l'objet dans divers milieux chrétiens, il est quand même bon que nous soyons affermis quant à ce qui concerne vraiment cette révélation que Dieu nous a donnée. On a donc divisé le sujet en 6 réunions. Ce soir, la Bible en elle-même, son contenu, son origine, sa formation, le canon, c'est-à-dire pourquoi tels livres sont dans la Bible et d'autres n'y sont pas. Puis comme deuxième sujet, l'inspiration de la parole de Dieu, l'autorité qui en découle et sa puissance. Chapitre 3, l'illumination, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole est pour moi. L'entrée de tes paroles illumine, dit le psalmiste. Il faut qu'elle entre pour illuminer. Bien sûr, elle est une lumière, mais pour qu'elle brille en nous, il faut qu'elle entre. Puis l'interprétation, brièvement. Quatrièmement, découpe en droit la parole de Dieu, selon 2 Timothée 2,15. On sait quelle confusion a été amenée dans l'Église chrétienne, à travers les siècles, en appliquant à l'Église ce qui concerne Israël. Et encore aujourd'hui, dans bien des milieux, les promesses faites à Israël s'accompliront pour Israël. Il ne faut pas penser qu'elles sont déjà accomplies dans l'Église, dans l'Assemblée. La révélation progressive des pensées de Dieu, nous verrons cela en détail, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a révélé sa pensée, mais pas tout à la fois. Aussi, il importe de bien se rendre compte ce que Dieu a révélé à tel stade, à telle époque, ce qu'il a révélé de plus ultérieurement. Les dispensations, base de relation de Dieu avec l'homme, sont deux choses différentes. Il y a une révélation progressive des pensées de Dieu. Et puis, il y a une base de relation de Dieu avec l'homme. Dieu se révélait au patriarche comme le Tout-Puissant. Et il était en relation avec eux sur cette base qui n'était pas encore la loi, qui n'était plus le temps de l'innocence d'Éden. Puis Moïse a donné la loi. Alors il y a eu le temps de la loi. Les bases de relation de Dieu avec l'homme étaient fondées sur la loi. Puis le Seigneur Jésus a apporté la grâce et la vérité. Vers par Jésus-Christ, c'est une autre base de relation avec Dieu qui aboutit à la relation d'enfant de Dieu avec le Père. Alors Israël, sous la loi, ne connaissait pas Dieu comme Père. Mais nous avons une nouvelle base de relation avec Dieu. L'on en distingue plusieurs, on en a retenu trois essentiels. Et alors, c'est parallèle la révélation progressive du nom divin. La Bible s'ouvre sur Dieu, au commencement Dieu, créa les cieux et la terre, comme on le verra, l'étonnant de ce verset déjà, Dieu est au pluriel, et créa est au singulier. Le mystère de la Trinité est impliqué dès le premier verset de la Bible. Un Dieu unique, qui se révèle en trois manières, de Père, Fils et Saint-Esprit. On verra cela. À Israël, c'est l'Éternel, Jéhovah, et pour nous, le Père. Christ, dans toutes les Écritures, eh bien, ça prendrait déjà 6 réunions, si on voulait, mais enfin, on tâchera d'en voir l'essentiel. Chacun regrette un petit peu de ne pas avoir été sur le chemin d'Emmaüs. Si on avait pu enregistrer, eh bien, on peut découvrir dans toutes les Écritures ce qui concerne Christ. Et au fond, il est le lien de tous ces livres divers et de cette révélation, le centre de cette révélation de Dieu. Alors, rapidement, sur la Bible, contenu, origine, formation, nous avons cité le verset de Matthieu 13, parce qu'il nous semble bien résumer en deux mots, comme seul le Seigneur savait le faire, quelque chose d'essentiel. Matthieu 13, 52. C'est à la fin des paraboles, des sept paraboles de ce chapitre, on dit que c'est une huitième. Verset 52, Jésus leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Un scribe fait disciple du royaume des cieux, c'est un qui a été sous l'ancienne alliance, un d'Israël, mais qui est devenu disciple du royaume des cieux, qui est donc dans le Nouveau Testament, qui a des choses vieilles, ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament, des choses nouvelles, ce que l'Esprit de Dieu révèle si largement dans le Nouveau Testament, c'est son trésor. Et je crois que c'est la première pensée pour nous. Ces 1189 chapitres de la Bible, c'est notre trésor. Son trésor. Trésor dans le cœur. Mais alors, ce scribe, semblable à un maître de maison, il produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Ce trésor se voit dans sa vie, se voit dans son comportement, et il peut tirer de son trésor pour l'édification des autres, pour l'édification de l'assemblée, pour l'aide de ses frères et sœurs, pour le bien de sa famille, des choses nouvelles et des choses vieilles. Son trésor. Le psaume 119, verset 162, avait aussi déjà un verset parallèle. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Ça rappelle les paroles de Jérémie, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, elles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Faire l'inventaire de ce trésor. Eh bien, le psaume 19 nous montre que Dieu se révèle dans la création, les cieux racontent la gloire de Dieu, mais qu'il se révèle dans sa parole. Et puis quels en sont les effets? Dans ce psaume 19, c'est assez fondamental quant à la révélation de Dieu. Les versets 1 à 6, c'est quant à la création, les cieux racontent la gloire de Dieu. Puis du verset 7 au verset 11, c'est la loi de l'Éternel pour le psalmiste. L'Ancien Testament est parfaite, restaurons l'âme, les ordonnances de l'Éternel, etc. Et enfin, l'effet de cette révélation, du verset 12 à la fin. Placé devant la révélation de Dieu dans la création, sa puissance éternelle et sa divinité, placé devant la parole qui sonde le cœur, qui est-ce qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, c'est-à-dire consciemment, qui ne domine pas sur moi. L'effet de la parole. Alors, faire l'inventaire, d'une façon très simple, c'est le contenu, les 39 livres de l'Ancien Testament, les 27 livres du Nouveau, 66 livres. Alors, tout de suite, une question se pose, est-ce qu'on les a tous lus? Et combien de fois? On lit volontiers l'évangile de Jean, les épîtres, mais enfin, toute la parole de Dieu nous est donnée, et c'est bien désirable qu'on la lise toute. Bien sûr qu'on lira certaines portions davantage. 1189 chapitres, ça veut dire à peu près 3 ans pour les lire à raison d'un chapitre par jour. Eh bien, si on a 40 ans, qu'on a commencé à 15 ans, on peut déjà avoir lu 8 fois la Bible. La division, donc, n'est pas inspirée. Dans l'original, il n'y a pas de séparation, un chapitre ni un verset, excepté les psaumes, qui sont chacun d'eux pour lui-même, un poème. 31 250 versets environ. Alors combien est-ce qu'on en sait par cœur? On sait Jean 3, 16, on sait le psaume 23, mais il y en a beaucoup d'autres. Jean 1. À ceux qui ont été persécutés et qui n'avaient plus de Bible ni rien, étaient reconnaissants de pouvoir se remémorer des textes de la parole et des chapitres entiers. Et en passant, je crois qu'à l'école du dimanche, on nous fait apprendre des versets. On a beaucoup plus profité d'avoir appris un chapitre à la suite, pendant plusieurs dimanches, que des versets isolés. Si on a appris Ésaïe 53 par cœur à l'école du dimanche, il vous reste quand même pour toute la vie. Notez simplement le plus long verset, ça n'a pas d'importance spirituelle, est dans Esther 8, et puis le plus court, chacun le connaît, dans Jean 11. Et en français, donne seulement deux mots. Jésus pleura. Subdivision, bien on les a rappelés, c'est simplement le parallélisme que l'on a voulu voir entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Pentateuques, c'est les saints livres de Moïse, on peut dire la révélation fondamentale, puis les livres historiques, ce qui a été vécu durant la période de la loi, les livres poétiques ou les livres de piété hagiographes, donc depuis Job jusqu'à l'Ecclésiaste, grosso modo, Cantique des Cantiques, Lamentation de Jérémie, puis les livres prophétiques depuis Ésaïe, 4 grands prophètes et 12 petits. Alors dans le Nouveau Testament, on a les évangiles qui sont le parallèle du Pentateuque, en quelque sorte le fondement, n'est-ce pas, de la révélation du Nouveau Testament. Les actes des apôtres qui sont la partie historique, développement de l'Église sur la terre. Les épîtres qui correspondraient plus ou moins aux livres de piété. Et enfin l'Apocalypse aux prophètes. Mais c'est un parallélisme qui a peut-être son importance. Alors, on voulait mentionner l'introduction à la Bible de Eugene Day, que l'on n'a pas dans toutes les éditions, mais je ne sais pas si on la met toujours. Ce n'est pas très facile à lire, mais mentionner qu'en tout cas depuis la page 10, Romains, c'est plus facile, où Darby prend les livres de la Bible les uns après les autres, en donnant la pensée essentielle de chaque livre. Les premières pages, c'est plutôt l'ensemble de la révélation, comment Dieu s'est fait connaître. C'est très intéressant, mais il faut prendre le temps de le lire soigneusement. Mais c'est utile d'avoir cette introduction et de la lire. Alors, langues originales, eh bien on le sait, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, sauf quelques passages qui sont en araméen, et il en avait été fait environ en 280 avant la venue du Seigneur, une traduction en grec dite des Septante, traduction de faite à Alexandrie, pour mettre l'Ancien Testament à la portée des Juifs qui étaient dispersés et avaient oublié l'hébreu. Alors cette traduction est certainement bonne, mais n'est pas absolument fidèle à l'original, mais elle a été très utile quand même. Le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est étonnant que tout ait été écrit en grec, autant que nous le sachions. Mais il faut bien se dire que le grec était la langue littéraire, la langue parlée dans la Méditerranée orientale. Et même à Rome, les premiers chrétiens parlaient grec, parlaient pas latin. Ce n'est que plus tard qu'ils ont mis à parler latin. C'est pour ça que Paul écrit son épître aux Romains en grec. Quand même, il écrit à des gens qui habitent à Rome. Certainement que ça a été voulu de Dieu. Le grec est une langue très riche qui permet d'exprimer toutes sortes de nuances de pensée que nous avons de la peine à traduire. On viendra à la question des traductions tout à l'heure. Je crois qu'on ne veut pas s'étendre là-dessus. Alors, origine et formation. Des premières brochures que nous avions publiées pour les jeunes, comment lis-tu ? J'avais mis dans le manuscrit que nous ne connaissions pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors le frère qui a revu le manuscrit me l'a renvoyé assez indigné. Vous ne connaissez pas l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais c'est Dieu qui est l'auteur. Nous ne connaissons pas l'écrivain, mais nous connaissons l'auteur. Alors l'auteur, évidemment, c'est Dieu, mais il a utilisé 40, 45 écrivains, on ne peut pas déterminer exactement, en particulier ces livres historiques de l'Ancien Testament, qui la plupart ne se connaissaient pas. Et ce qu'il y a de remarquable, ils sont répartis sur environ 1500 ans, un peu plus. Si Moïse a vécu vers l'an 1500, si le Nouveau Testament a été terminé avant la fin du premier siècle, ça fait 1600 ans. Les écrivains étaient dans différents pays. Ils gardent leur personnalité, leur langage et les connaissances de leur époque. Mais ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu pour exprimer ses pensées. Dans une brochure que nous n'avons plus, la brochure que le père de Mademoiselle Forauf avait écrite sur l'inspiration de la Bible, il prenait cet exemple. Un artiste commande un vitrail, mais pour des raisons particulières, il commande le rouge à tel et tel artisan, il commande le vert à tel et tel autre, le bleu à un autre, le jaune à un autre. Quand on apporte tous les morceaux, ça ne veut rien dire, tous ces morceaux. Enfin, c'est joli, il y a un morceau qui a une certaine forme, une certaine couleur. Mais alors, quand on les met ensemble, ça nous donne une image qui a un sens précis et beau. Mais qu'est-ce que cela dit à l'artisan qui a fait le rouge, celui qui a fait le bleu, celui qui a fait le jaune? C'est que derrière ce qu'il a fabriqué, il y avait un auteur, il y avait un artiste qui avait conçu le vitrail et qui en a fait exécuter les diverses parties. Alors il appliquait cela à la Bible. Dieu s'est servi de divers écrivains, à diverses époques, dans divers pays, de diverses professions. Il y a un médecin, il y a un berger, il y a, enfin vous pouvez trouver là, un légiste comme Moïse, chacun un sacrificateur comme Ézéchiel. Dans des périodes très différentes, ne se connaissant pas. Et quand on a l'ensemble, c'est un tout. C'est un tout dont on ne peut pas enlever une partie, mais auquel on ne peut pas ajouter. Il nous est dit, soit dans le Deutéronome, soit à la fin de l'Apocalypse. Et si on étudie de près la parole de Dieu, on voit qu'elle forme un tout, mais avec toutes ses variétés, avec toutes ses nuances, avec toutes ces diverses époques, avec sa révélation progressive, elle forme un tout, comme les morceaux du vitrail commandés à divers artisans, une fois montés, donnent l'image d'ensemble. Alors, sur l'inspiration des écrivains, nous y reviendrons, c'est un sujet capital. Un verset d'Ecclésias 12, je ne sais pas où on l'avait mentionné, qui probablement s'applique à ce que nous venons de dire. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Il y a plusieurs recueils, il y a plusieurs sages. Chacun d'eux est comme un clou enfoncé, mais ils sont donnés par un seul pasteur. J'ai cité la phrase, je crois qu'elle est de Jérôme, sans être sûr. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau est latin, et dans le Nouveau, l'Ancien est patent. C'est évidemment des mots latins que l'on a en français, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le Nouveau est caché. Il y est, mais il est caché, il n'est pas encore pleinement révélé. Puis dans le Nouveau Testament, l'Ancien, alors, s'ouvre. Tous les types de l'Ancien Testament que ne pouvaient guère comprendre ceux qui les exécutaient, tous ces sacrifices, nous deviennent clairs par la révélation du Nouveau Testament. Mais, comme on l'a dit, l'Ancien Testament est un peu comme le livre d'images par tous les types pour nous aider à saisir les vérités abstraites révélées dans le Nouveau Testament. La substitution. Christ est mort à notre place. Mais on l'a déjà avec le bélier qui est mort à la place d'Isaac. Mais il faut la révélation du Nouveau Testament pour comprendre, avait déjà Ésaïe 53, mais pour comprendre que l'agneau a été offert en victime parfaite à la place des pécheurs, pour porter le jugement à la place du pécheur. Alors c'est impliqué de diverses manières dans l'Ancien Testament, mais pleinement révélé dans le Nouveau. Alors la révélation du Nouveau est illustrée par les nombreux exemples de l'Ancien Testament. De sorte que l'on ne peut pas dire, moi je lis le Nouveau Testament. C'est là que Jésus a parlé, c'est là l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Je lis le Nouveau Testament. Non, Dieu nous a donné toute la Bible. Et si le Nouveau éclaire l'Ancien, l'Ancien nous aide aussi à comprendre le Nouveau. Une autre chose, c'est qu'il ne faut pas, alors, dans cet ensemble, sortir un passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament et bâtir un enseignement sur ce passage. Mais pour comprendre, saisir une vérité, un enseignement, il faut tâcher de grouper tous les passages de la parole qui en parlent et de l'ensemble des passages, comprendre la pensée que Dieu veut nous donner. C'est très important. Nous avons eu parmi nos frères un qui voulait enseigner que l'œuvre du Seigneur n'était terminée que lorsqu'il a présenté son sang dans le ciel. Bon, c'est un passage dans l'Épître aux Hébreux. Christ étant venu, est entré avec son propre sang dans les lieux saints. Alors il se basait sur Lévitique 16, où le sacrifice était accompli, on égorgeait le taureau, on l'offrait, etc. Le sacrificateur entrait dans le sanctuaire, faisait aspersion du sang devant le propitiatoire, sur le propitiatoire, et alors Dieu était pardonné à son peuple pour une année. Se basant sur Lévitique 16, il construisait sa doctrine. Donc il y avait toutes sortes de collatéraux, si l'on peut dire. Mais enfin, sur un passage, un autre nous dit, le Seigneur sur la croix a dit c'est accompli. Donc c'était accompli quand il l'a dit. Si on regarde de près, le Seigneur regarde toute la parole, il y avait encore une chose qui n'était pas accomplie, j'ai soif. Alors, quand il a dit j'ai soif, il dit c'est accompli. Tout ce que la parole avait annoncé qu'il devait accomplir était accompli. Puis, il remet son esprit, il donne sa vie. Ensuite, son côté a été percé, le sang a été répandu et l'eau, puis le Seigneur a été enseveli, il est ressuscité. Est-ce à nous de dire, l'œuvre de la croix se termine ou s'est accomplie, ou il se termine lorsqu'il a rendu son dernier cri, ou se termine à sa résurrection, ou se termine lorsqu'il entre dans le ciel? L'œuvre de la croix est un tout. La parole nous la présente dans ses phases successives, mais c'est un tout et il ne nous appartient pas d'en faire des petits morceaux. Et pour illustrer la chose de bien d'autres manières, mais il faut prendre garde. Alors l'unité, c'est Christ qui donne l'unité à la parole. La parole est vivante et opérante dans 1 Pierre 1,23. La parole est vivante, permanente, opérante dans Hébreux 4. Si vous prenez une plante, c'est un organisme vivant. Vous voulez l'étudier, alors prenez la fleur, tirez les pétales, il y a 5 pétales, regardez les étamines, sortez les étamines, vous les alignez, vous voyez qu'il y a un pistil, il y avait des sépales, il y avait une tige, il y avait des feuilles, vous mettez tout ça sur la table. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué la plante. Une plante est un organisme vivant. Une machine, vous pouvez la démonter et la remonter. Le moteur d'une voiture, il y en a qui s'amusent à le démonter pour le plaisir de le remonter. Mais un organisme vivant, on ne peut pas. Et il ne faut pas disséquer la parole en morceaux. Et dire, c'est bien sûr que ça dépasse encore bien plus, dire tel chapitre, et oui, c'est la parole de Dieu, tel chapitre, ce n'est pas. Je ne lis pas ces chapitres parce que non, ça ne vaut pas la peine. C'est un tout vivant. Elle est permanente, elle ne change pas, elle a été conservée, elle est opérante. Elle produit la vie, on l'a déjà vu, régénérée par la parole, engendrée par la parole de la vérité. Elle maintient la vie. L'homme vivra de toute parole de Dieu. C'est un miracle, un grand miracle, que la Bible nous ait été conservée à travers tant de siècles, malgré toutes les attaques. Attaques physiques, c'est-à-dire on a cherché à la détruire. On peut penser à toutes les persécutions des Huguenots en France. Attaques contre le texte. Dire ceci est inspiré, ceci ne l'est pas, ceci me parle, ceci ne me parle pas. Et toutes sortes d'attaques sur le texte biblique. Attaques du rationalisme, attaques de tout genre. C'est le livre le plus répandu dans le monde, le plus traduit. J'ai relevé qu'en 1978, la Bible entière était traduite en 268 langues. Le Nouveau Testament en 453, un livre au moins en 930 langues, soit en total de 1660. Et il y a beaucoup de langues ou de dialectes, surtout en Afrique bien sûr, en Amérique du Sud, dans lesquelles la Bible, aucune portion de la Bible n'est encore traduite. C'est un grand travail que font entre autres ceux qu'on s'intitule Wycliffe, qui envoient des personnes bien préparées et formées dans ces pays dont la langue n'est que orale, pour tâcher de fixer la langue, tâcher de faire une grammaire, et en une dizaine d'années, ils arrivent à traduire un évangile. C'est un énorme, immense travail, mais enfin, c'est très remarquable quand même. Il n'y a certainement pas de livre qui soit aussi répandu, aussi traduit, aussi mis à la portée de ceux qui veulent le lire. Alors, transmission de l'original, puisqu'on en est à cet aspect-là, l'Ancien Testament, l'Ancien Hébreu, comporte seulement des consonnes. Par exemple, donc l'Éternel, Jéhovah, nous traduisons par Jéhovah, Yahvé, ne comporte que ces quatre consonnes, le Y est un Ij, Yota, Ij, H, VH. Et les Juifs, ceux qui copiaient le texte, les Massorètes en particulier, attachaient une telle sainteté au nom de Dieu, au nom divin, J-H-V-H, qu'ils prenaient chaque fois une plume nouvelle pour l'écrire, je crois se lavaient avant de l'écrire, apportaient le respect maximum au nom divin, et n'employaient pas le nom, on disait le Seigneur, Adonai. Comme on le voit dans bien des passages, il ne prononçait pas le nom de Jéhovah ou Yahvé, ou comme on veut ajouter des voyelles, mais avait un immense respect. Et pour tout le texte, il a été recopié, le texte hébreu a été recopié avec un soin extraordinaire pendant 3000 ans. Et en particulier, donc, les Massorètes, qui étaient des rabbins entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ, soit en Palestine, soit en Babylonie, ont recopié le texte, avec donc le plus grand soin, mais en ajoutant des points entre les consonnes pour désigner les voyelles. Leur texte, donc le texte massorétique, a été la base de toutes les traductions que nous avons de l'Ancien Testament. Et alors on pouvait se demander, est-ce que ce texte a été vraiment tellement bien recopié? Il y avait des variantes insignifiantes entre les manuscrits. Et alors quand on a découvert, donc il y a quelques dizaines d'années, les manuscrits de la Mer Morte, qui sont du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc 16 siècles avant les Massorètes, on a constaté que les textes coïncidaient. Que le texte avait été recopié si soigneusement qu'il n'y avait pratiquement pas de variante ou insignifiante entre le texte de la Mer Morte, sur qu'on a, n'est-ce pas, Esaïe et d'autres passages, et le texte des Massorètes. Donc pour l'Ancien Testament, avec l'aide encore de la traduction des Septante, avec comparant le même mot dans les contextes où il se trouve, on est arrivé à établir un texte qui ne donne pas de variante de quelque importance dans l'original. La traduction, c'est une autre affaire. Il y a des passages de l'Ancien Testament qui sont très difficiles à traduire, en particulier dans les proverbes. Mais ça, c'est une question de traduction. Nouveau Testament, on nous dit qu'on en a environ 4000 manuscrits, une centaine qui sont complets. C'est intéressant, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années, on a découvert dans des papyrus dits de Bodmer, du IIe siècle, les plus anciens textes que nous possédions sur l'évangile de Jean, pas complet. Les originaux se sont donc perdus, c'est toujours des copies, la même chose que pour l'hébreu. Puis, du IIIe siècle, un Chester Beatty a découvert des papyrus aussi où il y a les évangiles des épîtres et de l'Apocalypse. Mais un ouvrage complet donc du Nouveau Testament, ce qu'on appelle les codex, le plus célèbre, c'est le Sinaiticus, le manuscrit du Sinaï, que Tischendorf avait découvert dans le couvent de Sainte-Catherine. Cette découverte, il y a un peu plus d'une centaine d'années, a amené alors à une bien meilleure précision du texte du Nouveau Testament. Et en particulier, on voit que quand M. Darby et ses collègues ont traduit le Nouveau Testament, ils se sont basés essentiellement sur les éditions de Tischendorf. Depuis lors, on a donc retrouvé ces papyrus anciens. On dispose du manuscrit du 5e siècle qu'on appelle le Vaticanus, qui est complet, qui est donc à Rome, et l'Alexandrinus, qui est à Moscou, si je ne me trompe pas, du 5e siècle. Enfin, ça, c'est les trois principaux manuscrits. Il y en a plusieurs autres. Il y a quelques variantes dans le Nouveau Testament. Il y en a davantage que dans l'Ancien. Il y a ce qu'on appelle le texte oriental ou le texte égyptien, où on groupe un certain nombre de manuscrits qui ont trouvé leur origine soit en Égypte, soit dans le Moyen-Orient. Puis le texte occidental, qui est davantage les manuscrits de l'Occident de la Méditerranée. Il y a des variantes entre eux qui n'ont pas très grande importance. Une des variantes importantes, c'est la fin de l'évangile de Marc. Vous savez que la fin de l'évangile de Marc, depuis le verset 9, qui donne un résumé, verset 9 à 20, on voit très bien que le texte change. Le verset 9 à 20 ne se trouve pas dans les plus anciens manuscrits, en particulier Sinaiticus et Vaticanus. Il se trouve dans d'autres, il se trouve dans des textes antérieurs au Sinaiticus, où il est cité, ces versets sont cités. Ils ont été reconnus comme faisant partie de l'évangile de Marc, comme faisant partie de ce qu'on appelle le canon, faisant partie du texte biblique. La même chose dans l'évangile de Jean. Je crois qu'alors notre traducteur a mis entre crochets, donc ce qui n'était pas sûr d'être authentique. Non, il ne l'a pas mis. C'est dans le texte anglais. Au chapitre 8, le dernier verset du chapitre 7, chacun s'en alla dans sa maison, et tout l'incident de la femme adultère jusqu'au verset 11 ne figure pas dans certains manuscrits. Alors, par diverses collations, d'autres, on s'est rendu compte que le texte devait exister avant le IIIe siècle, mais aurait été supprimé parce que on craignait que cet incident ne pousse à passer par-dessus le mal moral trop facilement. On ne peut pas dire. Mais enfin, voilà un texte qui a toute sa place parce que, par exemple, les Juifs veulent lapider la femme. Tout se passe dans le temple à Jérusalem. Et à la fin du chapitre, verset 59, ils prirent donc des pierres pour les jeter contre Jésus. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. D'où venaient ces pierres? Il n'y avait pas des pierres normalement dans le temple. Ils les avaient apportées pour lapider la femme. elles étaient là, ils ont voulu lapider Jésus. Donc l'incident du début du chapitre serait authentique. Et je comprends que notre traducteur l'a considéré comme authentique. Un point qui est agréé, je crois qu'il est d'une certaine importance, c'est dans Jean 3. Là, tous les personnes compétentes sont d'accord. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Les mots qui est dans le ciel ne seraient pas authentiques. C'est d'ailleurs un problème, n'est-ce pas? Ça a soulevé passablement de discussions. Alors, on a dans le premier chapitre le Fils unique qui est dans le sein du Père, la relation éternelle du Fils et du Père, qui nous est exprimée sous cette forme, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Dieu est un, le Père et moi, nous sommes un, de même substance, de même essence, de même amour. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. On verra cela dans nos derniers entretiens. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et alors, pour faire analogie, on aurait ajouté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce qui soulève un problème. Est-ce que le Seigneur, quand il était sur la terre, était simultanément dans le ciel? Philippiens 2, il s'est anéanti lui-même. Il a pris la forme de star, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il subsistait en forme de Dieu. Mais c'est autre chose. Alors, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, comme homme, il est dans le ciel aujourd'hui. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui prononce ces mots? Est-ce que c'est l'évangéliste qui complète le discours du Seigneur, etc.? Et le fait qu'on considère que ces trois ou quatre mots ne sont pas dans l'original réellement éclaire beaucoup de choses, mais enfin, pour dire le genre de variante qu'il peut y avoir. C'est très peu de choses, ça ne touche en tout cas jamais aux vérités essentielles ni au salut. Ce qui varie beaucoup plus, c'est les traductions. Alors la question des traductions, et ces dernières années en particulier. Nous avons notre traduction qui est aussi littérale que possible, soit notre frère, soit ceux qui ont travaillé avec lui, parce qu'ils étaient toute une équipe, quoi qu'on en veuille dire, qui ont fait d'abord la traduction allemande, puis ont entrepris la française, plus tard l'anglaise, ont cherché à rendre l'original aussi exactement que possible dans la langue moderne. La meilleure traduction est en allemand. La Elberfeld Übersetzung, c'est la meilleure. Alors, on nous donne aujourd'hui d'autres traductions. Nous avons la traduction seconde, qui est la plus acceptée, parce qu'elle est un bon français, et elle est proche de l'original. Elle cherche à rester dans l'original, mais quand même, il y a des interprétations. Et alors, on nous sert aujourd'hui toutes sortes de paraphrases du texte biblique pour le mettre à la portée aisée de ceux qui le lisent. Bonne nouvelle aujourd'hui, les traductions de Kuhn et bien d'autres. Mais nous devons dire, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est des livres qui peuvent être utiles, pas qu'il faut les rejeter. On peut les lire pour saisir un peu l'ensemble, avoir une lecture plus facile. Mais ce n'est plus la parole de Dieu. Et si nous voulons que nos enfants, nos jeunes et nous-mêmes ayons vraiment l'expression des pensées de Dieu, il faut nous en tenir à une traduction aussi littérale que possible. Mais c'est utile de comparer avec une autre traduction, que ce soit second ou une autre. Ces traductions qui sont des paraphrases ont probablement leur place, elles se lisent aisément, mais on ne peut pas du tout les prendre pour un texte d'étude biblique, pour être l'expression de la pensée de Dieu. Peut-être que je suis trop sévère, mais je crois que bien des frères partagent cette pensée. Il faut faire attention. Parce qu'alors, l'auteur qui a paraphrasé, il a mis ses propres pensées. Je comprends ce passage de telle manière, je vais le rendre dans un bon français, dans un bon allemand, dans un bon anglais. Mes lecteurs comprendront ce que je veux dire. Mais le texte primitif disait peut-être ce qu'il dit, mais il est très riche le texte primitif. peut voir bien des passages qui ont deux ou trois sens, n'est-ce pas, suivant l'angle sous lequel on les prend, etc. Alors, le texte inspiré, c'est l'hébreu, c'est le grec. C'est ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni rien. Mais on tâche de se tenir le plus près possible du texte primitif. Bon, on parlera demain de ces questions d'hébreu et de grec, grec en particulier parce qu'il y a une certaine utilité, mais au repas. Qu'est-ce que c'est que le canon? Ça veut dire règle, canon. C'est l'ensemble des livres qui ont été reconnus comme inspirés de Dieu, comme étant la parole de Dieu. L'Ancien Testament a été reconnu par la synagogue juive au cours des siècles, au fur et à mesure que les livres se sont ajoutés les uns aux autres. On dit, c'est dans un des livres apocryphes, ou dans Joseph, je ne me rappelle pas, que Esdras a mis en ordre l'Ancien Testament, c'est bien possible. Mais enfin, les Juifs, en tant que corps doctrinal, ce qu'on dit la synagogue, ont reconnu l'ensemble des livres que nous possédons, les 39 livres de l'Ancien Testament, comme étant la parole de Dieu. Il y a les livres apocryphes qu'ils ne reconnaissaient pas sur le même niveau que les autres. Quand le Seigneur Jésus, dans Luc 24 en particulier, parle de Moïse, les psaumes et les prophètes, c'est la Bible juive telle que nous l'avons maintenant dans le Nouveau Testament. Ça ne comprend pas les apocryphes. La traduction des Septante, on ne sait pas à quel moment les livres apocryphes y ont été ajoutés. On a de bonnes raisons de penser qu'ils n'y étaient pas au début, mais ils ont été ajoutés à un certain moment. Dans la Vulgate, la traduction que Jérôme avait faite en latin de la Bible, qui était la meilleure traduction de son temps, qu'on peut d'ailleurs se procurer aujourd'hui sans autre, en latin, il a mis les livres apocryphes avec divers avertissements que ce n'était pas de même valeur, pas de même nature que les autres livres. Un passage important, Romains 3, verset 2. Il est dit des Juifs, quel est l'avantage du juif? Quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière. Et d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Voilà l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, qui nous dit que les oracles de Dieu, donc les paroles de Dieu, les révélations de Dieu, ont été confiées aux Juifs. Que sont les oracles de Dieu? Pour Paul, c'est l'Ancien Testament, tel qu'il le connaissait, tel que la synagogue le reconnaissait de son temps. Les oracles de Dieu ont été confiés au peuple d'Israël, comme peuple, c'était leur livre, et toujours aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Mais enfin, pour l'apôtre, conduit par l'Esprit de Dieu, ce sont les oracles de Dieu qui ont été confiés aux Juifs. Ah oui, les livres apocryphes, pourquoi est-ce qu'ils sont alors dans les éditions catholiques? C'est le Concile de Trente, en 1546, qui pour lutter contre la Réforme, les a fait insérer dans l'Ancien Testament. Luther les insère, pas tous, en disant qu'ils sont de bonne lecture, mais pas sur le niveau des livres inspirés. Mais le Concile de Trente a introduit dans la Bible catholique, alors les livres apocryphes, elle les reconnaît comme canoniques, c'est-à-dire faisant partie du canon. Pour cela que dans les éditions catholiques de la Bible, on les retrouve. Dans la dernière édition la plus importante, la Bible de Jérusalem, par exemple, contient les livres apocryphes. Mais il suffit d'en lire, je ne sais pas, on a peut-être l'esprit formé comme ça, mais on lit le texte et on se rend compte presque tout de suite, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas la même teneur, ça n'a pas la même solidité, ça n'a pas la même saveur. C'est des histoires, évidemment, les récits des Maccabées sont intéressants, mais c'est sur un tout autre ton. Il y a une évidence interne, enfin, on y reviendra peut-être. Le Nouveau Testament a été reconnu par l'Église des premiers siècles, progressivement. D'abord les évangiles, les épîtres de Paul, Plus lentement, Jacques, 2 Pierre, les épîtres de Jean, tout cas les petites, et l'Apocalypse. Mais assez rapidement, sans que Dieu y a mis sa main, Dieu y a veillé, Dieu a conduit quand même les croyants fidèles à discerner ce qui était livre inspiré et faisait partie de sa parole et ce qui ne l'était pas. Luc nous dit, plusieurs ont entrepris d'écrire le récit des choses que nous connaissons avec toute certitude. D'autres ont écrit des évangiles, ils ont disparu pour la plupart. Mais les 4 évangiles que nous avons, les Actes, les Épîtres de Paul, ont de bonne heure été reconnus comme étant la parole de Dieu. Alors le Seigneur Jésus, parlant du Saint-Esprit, avait dit dans Jean 14, que l'Esprit vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Ça correspond aux évangiles. Puis dans Acte 15, l'Esprit rendra témoignage avec vous. C'est les Actes, ce témoignage de l'Esprit et le témoignage des apôtres. Et puis l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean 16, c'est les Épîtres, c'est la pleine révélation. Et enfin, il parlera des choses qui doivent arriver. C'est la partie prophétique des Épîtres et l'Apocalypse. Donc, ces chapitres 14 à 16, le Seigneur Jésus a, comme pour beaucoup d'autres choses, a esquissé, si l'on peut dire, ou a présenté le cadre de ce que l'Esprit développera. Et alors, nous ne pouvons qu'accepter qu'il en soit ainsi avec reconnaissance. Il n'y a pas de contestation dans les milieux chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, quant au Nouveau Testament. Donc, lieu de n'avoir pas de crainte que le livre que nous possédons est la parole de Dieu, vivante, permanente, opérante et complète. Nous reviendrons sur la question de l'inspiration, donc en détail demain, mais on voulait faire l'inventaire, ça a pris beaucoup de temps, je m'excuse. Mais enfin, on peut s'entretenir maintenant, faire les réflexions, les compléments que l'on aurait à cœur.
Je remarque tout d'abord au sujet des écrits apocryphes. Il y a un fait très remarquable, c'est que plusieurs des fausses doctrines de l'Église catholique sont extraits des livres apocryphes. En particulier, les prières pour les morts. Il y en a d'autres. Et c'est pourquoi l'Église catholique tient beaucoup à ces livres apocryphes. Parce que si on les considérait comme non canoniques, plusieurs de ces fausses doctrines n'auraient plus aucun fondement. Je voulais ajouter ce détail. Il y a un point que j'ai noté au cours de l'entretien, au cours de l'exposé de notre frère, la différence qu'on peut trouver entre certains passages de l'Ancien Testament, donc écrits en hébreu, et du Nouveau Testament, où ces passages ont été tirés de la traduction des Septante, qui était en grec. Et il y en a un qui n'a pas une importance majeure, mais que je peux peut-être vous signaler dans Genèse 47, au verset 31, et c'est la mort de Jacob. Et les derniers mots de ce verset 39, « Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. » Ce même passage nous est cité en Hébreu 11, verset 21. Il paraît que plusieurs passages de cet épître empruntés à l'Ancien Testament sont précisément tirés de la version des Septante. Mais il semble qu'ici ce n'est pas le cas. Verset donc 11, verset 21, où nous retrouvons le récit de Jacob à ses derniers jours, exprimé de cette manière. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun de des fils de Joseph et adora appuyé sur le bout de son bâton. Et notre cher traducteur a ajouté
c'est la lettre H. Il a ajouté ceci, selon Genèse 47, verset 31, dans les septembre. On a donc repris dans l'épître aux Hébreux la traduction des septembre. Il n'y a que peu de temps que, dans une lecture, j'ai trouvé l'explication de cette différence. Le mot hébreu pour le lit ou pour le bâton s'écrit avec quatre consonnes. Notre frère vient de nous dire qu'il n'y avait pas de voyelle en hébreu. Les quatre consonnes M, T, T, H. Alors, le lit se dit mita. On ajoute donc I et A, et cela donne, avec les mêmes consonnes, cela donne le mot lit. Dans le chapitre 11, ce que je viens de dire à propos de lit, c'est donc dans Genèse 47. Tandis que dans le chapitre 11 des Hébreux, les Septantes ont mis, dans la traduction, c'est un peu compliqué, dans la traduction qu'ils ont faite de l'Ancien Testament, ils ont écrit en mettant A et, ce qui donne maté et signifie le bâton. Avec les mêmes consonnes, mais des voyelles différentes, on obtient deux mots de signification différente. Mais il y a quelque chose qui me paraît remarquable, c'est que ces différences, l'esprit s'en est servi et leur a confié, leur a donné son autorité, de sorte que nous n'avons pas à nous faire de scrupules et à nous poser des questions en disant mais il y a contradiction entre ces deux passages. Le sens donné et reconnu, adopté si l'on peut dire, par le Saint-Esprit correspond à la pensée de l'Esprit, à ce que l'Esprit voulait nous donner par ces différences. C'est un peu compliqué, je m'en excuse, mais je voulais vous signaler ce fait en rapport avec les points qui ont été exposés ce soir. Il y a encore d'autres choses, mais je ne veux pas m'allonger. Yahvé. Notre frère a relevé aussi que, comme tous les autres mots hébreux, il n'a que des consonnes. Et les copistes, les scribes, n'ont pas voulu ajouter l'écriture massorétique avec les voyelles. Mais nous savons que ce tétragramme, ces quatre lettres, se lient à un verbe hava qui signifie être. Nous avons donc quand même là une certaine lumière sur la signification fondamentale de ce nom de Dieu. Je suis celui qui suis. C'est la vie, c'est la manifestation d'une vie vivre. Mais nous touchons là à des choses qui nous dépassent beaucoup.
On a dit tout à l'heure que le fait que nous ayons la Bible était un miracle. Que nous ayons la Bible telle que nous l'avons, dans la liberté que nous avons de la lire, aussi que nous l'ayons de manière aussi complète et pourrait-on dire aussi parfaite, est un miracle. Et j'aimerais relater un récit que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans, de recherches qui avaient été faites dans les pays du Moyen-Orient et de la découverte que l'on avait faite de très anciens papyrus. Et sur l'un d'entre eux, on avait lu des mots pas intelligents par les pins. Alors les savants qui avaient trouvé ces mots se sont dit, voilà, il s'agit de la comptabilité d'un boulanger, et ils ont fait par manière très habituelle, ils ont fait dater ce bout de manuscrit. Et ils ont trouvé qu'il datait du 1er siècle, peut-être entre 60 et 70. Et voilà bien, rien d'autre. Or voilà qu'un homme, connaissant la parole de Dieu, s'est dit, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Pas intelligent par les pins. Et il s'est mis à regarder et il a trouvé dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, au verset 52, que les disciples n'avaient pas été rendus intelligents par les pains. Il s'agirait donc peut-être d'un tout petit bout d'un manuscrit, sinon l'original, en tout cas d'un très ancien manuscrit de Marc. Voici le récit. Mais ceci nous apprend quelque chose d'important. Car ce petit bout de verset est extrêmement important. Les pains, c'était la multiplication des pains. Les disciples n'avaient pas été rendus intelligents par ce miracle extraordinaire qu'était la multiplication des pains. Et ils se sont trouvés sur une mer en furie, et ils ont été excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains. Sommes-nous rendus intelligents par les miracles que nous vivons? Sommes-nous rendus intelligents par le miracle qu'est la parole de Dieu? Est-ce que cette parole de Dieu a pour nous, pour notre cœur, pour moi, pour mon cœur, le prix qu'elle devrait avoir en fonction du miracle qu'elle représente, de la puissance que Dieu a déployée pour me la faire parvenir?
Dans notre petite assemblée, un cher frère déjà âgé qui ne variait pas beaucoup ses paroles ou ses pensées, mais qui avait un attachement particulier pour la parole de Dieu. Et il nous disait, souvenez-vous que quand vous ouvrez votre Bible, vous avez devant vous Christ écrit. Et qu'elle soit devant vos yeux, qu'elle soit devant vos cœurs, qu'elle soit devant vos consciences. Vous avez devant vous Christ écrit. C'était sa façon de nous dire combien la parole de Dieu avait laissé sur son cœur et dans son esprit.
Écrit de notre frère M. Forauf, que l'on peut retrouver, je pense elle-même, dans un messager de 1915. On lit ceci, c'est que il serait probable que ce que l'on disait tout à l'heure, Esdras aurait rassemblé l'ensemble des livres sacrés pour constituer ainsi le canon des Écritures concernant l'Ancien Testament, et qu'ensuite il y aurait été ajouté simplement l'addition de l'écrit de Malachie, et qu'ainsi aurait été constitué le canon des Écritures concernant l'Ancien Testament. Comme on l'a dit, écrit en hébreu et traduit en grec, et c'est là la version des Septante, 280 ans environ avant Jésus-Christ. Et ce qui est remarquable, que nous fait remarquer notre frère Forauf, c'est que les citations du Seigneur dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, sont empruntées à cette version des Septante.
Un point de détail, car il est d'ordre plus ou moins intellectuel. Nous remarquons tous que notre Bible est divisée en chapitres et en versets. Au temps du Seigneur, lorsqu'il évoquait l'Ancien Testament, il n'y avait pas ce moyen et on était obligé de se référer à des divisions que précisément ces traducteurs des versions des Septante avaient eux-mêmes utilisées. Ils avaient donné des titres et le Seigneur lui-même emploie cette expression « au titre du buisson ». Je ne me souviens plus exactement où ça se trouve dans les évangiles, peut-être quelqu'un le saurait. Et il y avait bien, et là, évidemment, une difficulté pour l'étude de la parole. Ceux qui se sont penchés sur cette étude ont essayé de la résoudre en la divisant. Nous apprécions cette division. Personne, je pense, ici, ne se lève contre cette division. D'ailleurs, nos frères et notre frère Darby, traducteur, a aussi suivi cette division. Mais cette division ne remonte pas à très loin. Enfin, c'est une façon relative de dire pas à très loin. car la première division chapitre a été faite au XIIIe siècle. C'était un cardinal, si mes souvenirs sont exacts, et la division versée a eu lieu plus tard. Elle aurait été achevée en 1554 par un dénommé, je crois, Robert Étienne. C'est un moyen qui, sans aucun doute, facilite énormément l'étude de la parole et favorise aussi, surtout, ceux qui ont une bonne mémoire.
Celle de l'Ancien Testament aurait déjà été faite par les Massorètes au IXe siècle, pour les versets de l'Ancien Testament, et complétée justement par Robert Étienne au XVIe siècle, pour le Nouveau Testament alors. Et c'est là qu'il y eut alors, à ce moment-là, une première version de la Bible tout entière, en chapitres et versets. Ce n'est donc pas tellement loin, XVIe siècle.
Notre cher traducteur, parfois s'est distancé de cette subdivision. C'est pourquoi nous trouvons la fin d'un chapitre, le verset premier du chapitre suivant, accolé sans alinéa à la dernière phrase du chapitre précédent. Parce que la pensée qu'on trouve dans ce verset qui a été émis dans un chapitre suivant se relie à la dernière pensée du chapitre précédent. On ne peut absolument pas admirer suffisamment la précision du travail de notre frère M. Darby, c'est extraordinaire. Et ceux qui s'occupent de la révision de cette traduction en font l'expérience à tout instant. C'est un travail, il avait des collaborateurs certes, mais c'est un travail qui a été fait avec un soin, un sérieux, et on peut le dire, dans la dépendance du Saint-Esprit.
Dans un traité qui s'intitulait Le Sceau des Sept, qu'un mathématicien avait recherché comment la langue hébreu étant une langue avec une signification chiffrée, disons le chiffrage en quelque sorte des lettres hébreux, et qu'il avait trouvé ce que nous connaissons déjà, parce que nous voyons quelques points où ce chiffre 7 est déjà extrêmement répandu dans la parole, mais qu'il s'y trouve de façon, disons, divine, au travers de toutes les phrases, au travers du nombre des verbes, au travers du nombre des lettres, etc. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cela se retrouve, paraît-il, également en grec. Et chose, disons, qui était citée, c'est que ce sceau des sept, comme ça a été appelé, ne se retrouvait absolument pas dans les livres apocryphes.
Oui, c'est exact, c'est le docteur Panin.
C'était un russe d'origine, mais qui a travaillé surtout aux États-Unis et qui, avec de très nombreux collaborateurs, a pris la peine de déterminer pour chaque terme, tant de l'hébreu que du grec, puisque le grec emploie aussi des lettres pour les chiffres, et a constaté que tous les noms étaient divisibles par 7. C'est aussi cette méthode qui a été appliquée pour la fin de l'évangile de Marc. Notre frère M. André nous a signalé que certains avaient eu quelques hésitations depuis le verset 9 du chapitre 16 jusqu'à la fin, et qu'on considérait peut-être cette fraction comme empruntée à un texte non inspiré. Or, le contrôle de ce docteur Panin avec ce chiffre 7 a permis d'établir que ce texte, cette fraction de texte, est absolument inspirée au même titre que les autres.
Est un mot d'origine grecque, biblia, qui est un pluriel. Sous sa forme latine, il devient un singulier féminin, la Bible. Biblia signifie les livres. Et on dit que c'est Jean Chrysostome, le patriarche de Constantinople, qui, autour de l'an 400 après Jésus-Christ, pour la première fois emploie ce mot de Bible pour désigner les livres sacrés. Il en est de même pour écriture, avec un E majuscule, d'abord au pluriel, puis au singulier. Et ce qui est remarquable, c'est que dans l'Évangile, on voit le Seigneur parlant des écrits de l'Ancien Testament, dire et exprimer, donc ce mot est l'écriture. Et, par exemple, on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 15, « Et l'écriture fut accomplie qui dit, et il a été compté parmi les iniques, l'écriture, qui montre bien que cet ensemble des écrits de l'Ancien Testament constitue une unité. »
Quand il écrivait le nom de Jéhovah, je pensais, si nous avons le même respect pour le nom de Dieu, et notre relation est bien plus intime avec Dieu, il est notre Père, mais le respect pour son nom, il faut quand même. Quand on chante, quand on parle, éviter de rigoler en prononçant le nom de Dieu. Éviter de chanter où il y a le nom de Dieu ou de Christ ou son œuvre en rigolant. Les jeunes le font souvent, nous le savons, mais j'y tiens quand je suis parmi mes chers jeunes à signaler le respect qu'il faut. Et je leur dis souvent, rappelez-vous en chantant ces paroles que les anges se prosternent et adorent quand ils entendent ces choses. Et quelquefois, nous rions. Il faut être soigné, pas changer la plume, pas se laver, mais un respect intérieur profond.